Alléluia. Le Seigneur est bon? Tout le temps? Et à 100%. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? On va faire une bonne déclaration? Amen. Je pense que c'est très important que nous approchions la parole de Dieu avec l'intention de recevoir de Dieu. Vous êtes d'accord? Donc, dites avec moi. Voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends. Et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets la parole en pratique. Et je suis heureux dans mon activité. Je crois que je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, nous avons commencé la semaine passée. Oui. Donc, c'était très facile donc intituler ce enseignement parce que j'ai appelé dans le sermon la semaine passée. Vous vous rappelez? Les clés de la... Oui, entrer dans la bénédiction de Dieu. Donc, j'ai appelé ça entrer dans la bénédiction de Dieu 2. D'accord? Ça va? Et je vous ai donné une clé, un verset clé semaine passée, donc un verset clé de cette semaine, c'est Proverbes, chapitre 10 et verset 22. D'accord? Ça veut dire que c'est le verset le plus important pour nous. C'est quelque chose que vous pouvez méditer cette semaine et ça va vous faire du bien. D'accord? Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc on va revenir là-dessus. D'accord? Et on va regarder certaines autres traductions pour voir ce que ça dit, n'est-ce pas? Mais on va parler encore comment entrer dans les bénédictions de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes là où vous voulez être? Vous voulez davantage? On va voir aujourd'hui pourquoi vouloir davantage. Oui. Donc, on va faire une petite récapitulation de ce que nous avons dit pour que ceux qui n'étaient pas là puissent être donc sur la même page comme on dit que nous. Donc on a regardé Isaïe 1, 19 la semaine passée, vous vous rappelez? Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen? Est-ce que vous avez appris celui-là? Ça c'est un bon verset, n'est-ce pas? Si vous avez de la bonne volonté, question d'attitude. Et si vous êtes docile, question d'obéissance, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Une chose que j'ai appris, si c'est dans ma Bible, je peux l'avoir dans ma vie. Amen. Dieu n'a pas écrit des choses dans la Bible pour me dire, c'est pas pour toi. Il les a écrits pour que je puisse dire, merci Seigneur. Amen. Et on va comprendre. Donc nous avons vu qu'il y a deux choses à savoir. Et je veux que vous sachiez ces choses et on va ajouter un troisième aujourd'hui, d'accord? Deux choses à savoir. Premièrement, c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Amen. Et pour certains d'entre vous, ça c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Et la deuxième chose qu'il faut que nous sachions, c'est comment recevoir ces bénédictions dans notre vie. Parce que c'est une chose de savoir que c'est la volonté de Dieu, c'est une autre chose de vivre ces bénédictions. Amen. D'accord? Donc, je vais reprendre les versets. Je sais, je fais exprès. On ne doit pas avoir peur de revoir les mêmes choses. En Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, nous voyons le commencement où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Père, Fils et Saint-Esprit, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. À son image, il crée, à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Hallelujah. Et le prochain verset est très important. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image et il les a bénis. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Mais une chose que j'ai réalisée, peut-être vous avez réalisé, peut-être pas encore, mais les bénédictions de Dieu ne tombent pas sur nous comme des cerises mûres d'un arbre. Amen. Certains pensent parce que nous sommes bénis, que Dieu veut nous bénir, ça veut dire que ça arrivait par hasard. Certains chrétiens chantent le chant « Qui sera, sera ». Mais je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Ouais, je pense que nous avons besoin d'être proactifs et aller cueillir les bénédictions de Dieu. Amen. Donc, je veux vous encourager d'aller cueillir ces fraises, ces fraises, ces framboises, ces cerises. Qu'est-ce que vous avez besoin dans votre vie? Est-ce que c'est dans votre Bible? Est-ce que vous avez trouvé les promesses de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de les cueillir? Ok, on va lire ensemble Deutéronome 28. Peut-être vous voulez y tourner. Alléluia, on a lu ça la semaine passée, mais c'est bon d'entendre à nouveau. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton Pâsque, ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Parce qu'il est très clair dans ces versets quelles sont ces bénédictions, quelle est la volonté de Dieu pour chaque homme et pour chaque femme qui marche en obéissance à sa parole. Verset 3 dit, « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. » Ça, c'est bon à déclarer sur les gens quand ils partent en vacances, n'est-ce pas? Quand ils partent dans les voyages d'affaires. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tout le monde dit « toutes mes entreprises ». Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque, tout le monde dit « lorsque », lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor au ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prendras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements, et que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Est-ce clair? Ça, c'est quelque chose à méditer. Ça, c'est quelque chose à lire, à relire. Moi, je m'appelle ma maman qui est partie au ciel il y a 10 ans passés. Oui. Nous a dit qu'elle est allée à la synagogue parce que ça l'intriguait de voir comment ça se passe à la synagogue. Elle était en haut dans les synagogues avec les femmes et on se mettait à lire cela. Elle dit, mais chaque fois que j'allais au synagogue, oui, on lisait Deutéronome 28. Elle dit, je comprends pourquoi les Juifs croient qu'ils doivent être bénis. Croient qu'ils doivent toujours être en haut et jamais en bas. Et nous les chrétiens, est-ce qu'on croit que Dieu a enlevé ça de notre alliance? Est-ce que c'est une alliance inférieure que nous avons reçue? Une alliance supérieure? Bonne question, n'est-ce pas? Parce que certains prétendent que Dieu ne s'intéresse plus de notre vie, ni matérielle, oui, financière, ni de notre vie physique, notre santé. C'est bizarre quelque part, n'est-ce pas? Si Dieu s'intéressait tant dans l'Ancien Testament de ces choses, et tout d'un coup, il dit, vous n'avez plus besoin ni d'argent, ni de santé. Retournons dans notre verset clé. Proverbe 10, verset 22, il dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. » Donc moi, je veux être là, dans le centre de sa volonté, dans sa bénédiction. Et vous aussi? J'ai trouvé différentes versions. Dans la parole de vie, il dit, « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. » Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. On a un peu peur de ce mot, n'est-ce pas, riche? Parce qu'on dit les choses comme, oui, mais les gens riches, ils ont tout manigancé, ils ont toutes les choses illégales pour y arriver. Vraiment, c'est votre attitude envers les riches? Ils sont tous malhonnêtes? Est-ce qu'il faut être malhonnête pour être riche? Ma Bible dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude, moi je pense toujours au Proverbe 12, 25, qui dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude n'ajoute rien. Un autre verset, le français courant dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Là, nous ne parlons pas seulement de richesse, de biens matériels, nous parlons de véritable prospérité. La véritable prospérité, c'est de pouvoir aux besoins de ceux qui nous entourent. S'ils ont besoin de guérison, c'est de prier au nom de Jésus et les voir guéris. S'ils ont besoin de rencontrer le Seigneur, c'est que nous les annonçons la bonne nouvelle. Jésus est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, et vous pouvez le connaître dans votre vie et naître de nouveau. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'il est loin du Seigneur pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez ce que c'est une bonne nouvelle aux pauvres? C'est que vous n'avez plus besoin d'être pauvre. Vous pouvez sortir de votre pauvreté et vous pouvez voir dans l'histoire, là où est allé l'évangile de... Là où les gens et les pays et les cultures ont accepté l'évangile, ils sortent de la pauvreté. Et là où on refuse l'évangile, là où on refuse Dieu, oui, on voit des hommes qui dominent les autres et une pauvreté, mais le plus bas qu'on puisse connaître, c'est là où Jésus-Christ est rejeté. Dieu désire que nous prospérions tous. Donc qu'est-ce qu'on voit? La bénédiction du Seigneur, il nous enrichit, il nous rend riches. Ça, c'est une nouvelle pensée pour certains. Oui. Et il donne la prospérité. Quelqu'un dit Alléluia. Donc, posons-nous la question, mais est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est différent que le Dieu du Nouveau Testament? Regarde avec moi Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous regardons souvent quand on parle des dîmes et des offrandes, Malachie 3, 10, mais là, verset 6, Dieu déclare quelque chose qui est très, très important parce qu'on entend les gens, oui, qui nous parle du Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, comme s'il y en a deux. Jésus dit qu'il est venu pour nous montrer le Père. Et Dieu dit ceci, Malachie 3, 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne sais pas si ça c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que j'ai appris, pas hier, mais quelques années passées, oui, que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il a payé légalement pour que moi je puisse devenir la justice de Dieu en Christ Jésus, que je puisse devenir un enfant de Dieu. Amen. Et j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, j'ai demandé d'entrer dans ma vie et je suis né de nouveau. Et vous savez, j'aime ce verset parce qu'il dit Dieu ne change pas. Il va pas se réveiller demain matin et dire ah mais vraiment je vais changer comment on peut être sauvé. Ouais, c'était trop simple, je préfère compliquer les choses un petit peu, tu vois, pour faire un petit triage. N'êtes-vous pas heureux qu'il a décidé, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés et pas par nos œuvres. Oh, Dieu ne change pas. Mais quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Je suis très content que vous avez dit cela. Regardez avec moi dans le Nouveau Testament pour voir si le Dieu du Nouveau Testament change. Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17. Juste après Hébreux, on trouve Jacques. Jacques 1, 16 et 17 dit, ne vous y trompez pas. On trouve cette phrase trois fois dans le Nouveau Testament. Je vous donne un devoir. Vous pouvez trouver où sont les deux autres fois. Il dit, ne vous y trompez pas. Oui. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout parfait, du don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je ne sais pas si vous vous êtes mis sur la plage avec une parasol dernièrement. Non, mais si vous vous mettez, vous allez trouver que le soleil ne bouge pas beaucoup, mais l'ombre bouge énormément. Petit mouvement de soleil énonce mouvement de l'ombre, n'est-ce pas? Et il dit, il n'y a ni ombre de variation en Dieu. Ce qu'il a déclaré, c'est sa volonté pour toujours. S'il a décidé de bénir les hommes, dans Genèse chapitre 1, aujourd'hui, en 2012, il a décidé de bénir des hommes. Quelqu'un dit Hallelujah. Il désire que vous soyez bénis. Amen. Hallelujah. Pourquoi il ne change pas? Parce que ce qui est parfait n'a pas besoin de changer. Est-ce que nous avons des hommes et des femmes parfaits ici? Absolument pas. C'est pourquoi on a besoin de changer, n'est-ce pas? Il est parfait, nous ne le sommes pas. C'est pourquoi j'ai besoin de me changer pour m'accorder avec la parole de Dieu. Et c'est un processus qui va prendre toute ma vie. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des malédictions des générations. J'ai entendu, je ne sais pas combien de messages et les gens qui allaient faire des séminaires sur les malédictions des générations. Mais vous savez, j'ai rarement entendu parler des bénédictions des générations. En réalité, j'ai entendu deux messages en 38 ans de ma vie chrétienne sur les bénédictions des générations. Ouais, je me rappelle exactement qui les a prêchés. C'était formidable. Mais j'entends les gens parler tout le temps des malédictions des générations. Est-ce que vous voulez aller avec moi en Exode, chapitre 20, 5 et 6? Je ne sais pas si vous lisez votre Bible tous les jours. Mais si vous voulez une véritable protection des idées erronées, oui, qui peuvent vous enterrer vive, il faut lire la Bible tous les jours. Il faut qu'on renouve nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui enseignent plutôt la théologie, les idées des hommes, que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu libère toujours. Les idées des hommes lient toujours. Et je ne veux pas être lié. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu afin que je sois libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ces malédictions de génération, on va les lire, d'accord? Mais comprendre que quand les gens parlent de ça, ils ont oublié quelque chose. Exode 20, 5 et 6. Tu ne prosterneras point devant elles. Ouais. Parlons de quoi? Des images taillées. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Est-ce qu'il y a un point là dans votre Bible? Est-ce qu'il a fini sa pensée? La phrase est terminée? Absolument pas. Et on pense que nous pensons que Dieu veut punir. Dieu n'a jamais voulu punir. Il dit, et qui fait miséricorde. Tout le monde dit miséricorde? Grâce et miséricorde, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il fait grâce, il fait miséricorde jusqu'en combien? 1000. Donc on a 3 ou 4 générations d'un côté, on a 1000 générations d'autre côté, et j'ai entendu mais des dizaines de gens prêcher et des séminaires entiers sur les malédictions des générations. Oui, si vous décidez de désobéir à Dieu, si vous décidez de vous prosterner devant d'autres dieux, vous allez avoir des problèmes. Ça c'est sûr. Mais moi je m'intéresse à la bénédiction et il dit, oui, jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui garde mes commandements. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment Dieu? Est-ce que vous avez eu la même chose que moi? Vous êtes tombé amoureux de Dieu? Je suis tombé amoureux de Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Quelque chose s'est passé dans le cœur d'un jeune adolescent, ouais, qui n'avait jamais mis les pieds dans l'église, qui n'avait pas entendu l'évangile. Mais j'ai entendu l'évangile et j'ai vu des jeunes chrétiens. J'ai vu des hommes et des femmes qui mettaient la parole de Dieu en pratique. J'ai vu l'amour dans leur vie. J'ai vu la paix et la joie, ce que je savais même pas que je désirais. Je voulais ça plus que tous au monde. Et j'ai vu ça chez les chrétiens. Et quand j'ai dit, comment est-ce que vous pouvez avoir ça? Est-ce que c'est possible pour moi? Ils ont dit oui, c'est Jésus. Et j'ai invité Jésus avec une simple prière que quelqu'un avait besoin de faire pour moi. J'ai répété après quelqu'un, parce que je sais pas, j'ai dû prier à l'école, parce qu'on faisait des prières à l'école, comme on chantait des hymnes à l'école. Mais j'ai compris absolument rien de cela. Mais j'ai suivi cette jeune homme dans une simple prière, et j'ai dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Tu viens dans ma vie. Je veux que tu me pardonnes de mes péchés. Et vous savez, quelque chose est passé. Le plus grand miracle qui puisse se passer dans la vie d'un homme ou d'une femme, Jésus est entré dans mon cœur. Il a fait de moi une nouvelle créature en Christ. Et je suis tombé amoureux de Dieu. Et j'aime Dieu. 38 ans plus tard, c'est formidable, marcher tous les... de savoir, chaque jour quand je me lève, Dieu est là, il m'attend. Chaque fois qu'il y a une difficulté, il est là avec moi. S'il n'est pas en train de tenir ma main, il est en train de me porter. Mais il est toujours là. Il a promis de jamais me laisser. Et je ne me fie plus à mes émotions parce que j'ai entendu trop des gens dire, oui, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Il a promis, Dieu a donné sa parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il a dit. Donc après avoir dit ça, il ne changera pas en disant, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Tu vois, je fais grève. Il n'y a pas de grève au ciel, quelqu'un dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, je n'aime pas prêter attention à la malédiction. Moi, je veux prêter attention à la bénédiction. Et je suis désolé, mais j'entends les gens dire n'importe quoi. Et normalement, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Regarde avec moi Proverbe 26, verset 2. Je ne me rappelle pas qui l'a dit, mais j'ai entendu ceci en tant que jeune chrétien qui a 31 proverbes et dans la plupart des mois, il y a 31 jours, lis un chapitre de proverbes tous les jours et vous deviendrez sage. Je ne sais pas, il faut poser la question à ma femme si je suis devenu sage. Ouais. On peut croire beaucoup de choses sur soi-même, n'est-ce pas? Mais je continue à lire tous les jours un chapitre de proverbes. Et j'ai trouvé ça il y a longtemps, longtemps. Donc quand les gens étaient en train de parler des malédictions, et j'ai peur parce qu'on m'a maudit, on m'a jeté un sort et tout ça, j'ai toujours dit, mais vous ne connaissez pas Proverbe 26, 2? Mais c'est quelque chose que j'ai caché dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme l'oiseau s'échappe quand l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Les gens veulent me maudire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les bénir. Amen. Pourquoi? Parce que je veux la bénédiction, mais je ne laisserai pas cette malédiction rester sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de marcher tous les jours avec Dieu. J'ai décidé d'obéir à sa parole. Chaque fois que je lis quelque chose, je le mets en pratique et souvent j'ai besoin, Saint-Esprit, aide-moi. Je sais en moi-même, je ne peux pas le faire, mais tu es en moi, donc je compte sur toi. Je sais que c'est ta parole et je commence à le mettre en pratique. Et c'est vrai, quelquefois on a besoin de briser les anciennes habitudes pour commencer les nouvelles habitudes, n'est-ce pas? Ça prend du temps, mais je sais avec Dieu, on peut triompher toujours. Amen. Éphésiens 4, 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que nous pouvons ou ne pouvons pas. Il faut fermer la porte, s'il vous plaît mes amis. Si vous avez ouvert une porte au diable, décidez aujourd'hui, je ferme cette porte. Je ne lui donne plus accès et je lui dis non. Je ferme cette porte à clé. Si c'est nécessaire, je vais le barricader. Amen. Mais il n'entrera plus. La Bible dit, ne donnez aucune prise au diable dans notre version. Notre version dit, ne donnez pas occasion au diable. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser les liens du diable dans notre vie. Amen. Nous commençons ça le jour que nous naissons de nouveau. Si vous n'avez pas encore invité Jésus d'entrer dans votre vie, ça commence là. Pourquoi? Parce qu'il prend résidence dans votre cœur. Et si chaque jour, vous remplissez votre cœur avec la parole, avec l'esprit, si vous louez le Seigneur et vous lui donnez première place, il n'y aura pas de place pour le diable. Et vous allez voir, le diable qui vous a tenté, le diable vous a harassé, oui, dans différents domaines, vous allez voir qu'il a de moins en moins en moins en moins de place. Et ce qui est, tu dis, mais cette tentation, je tombe chaque fois, dans quelques mois, vous dites, mais je suis même plus tenté par ça. Pourquoi? Parce que vous remplissez, oui, votre être avec Dieu, avec sa parole, avec ses louanges. Amen? Hallelujah. Faut dire au diable, c'est fini entre moi et toi. Tu es vaincu et en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Et quand il lève la tête, vous marchez dessus. Amen. Meilleure façon de marcher sur le diable, c'est de prendre la parole et dire, il est écrit. Amen. Hallelujah. Nous avons vu, et je veux le redire parce que je pense que c'est tellement important, nous avons vu la bénédiction d'Abraham parce que Galates 3, 29 nous dit que nous sommes héritiers sans la bénédiction d'Abraham. Donc je veux qu'on relie en Genèse 12, 2. Tellement important, c'est que tu vois, il y a certains caractères dans la Bible qu'il faut étudier. Je pense Abraham c'est un de ces caractères, Joseph c'est un autre, hein? Ouais, des caractères très très importants. David qui avait un cœur après Dieu, c'est un homme à étudier. Amen. Bonne chose à faire cet été, ouais. Mais Abraham, Dieu lui parle et il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur d'entendre ce mot. Tu seras une source de bénédiction. Parce que vraiment dans la vie du sujet de comment entrer dans les bénédictions de Dieu, c'est quand nous commençons à dire, je veux être une source de bénédiction. Ça m'intéresse. Comment est-ce que moi, je peux faire comme Dieu, bénir les autres? Est-ce que ça vous intéresse? Ça me branche. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui sont branchés par une chose ou autre chose. Ce qui me branche, c'est quand je sais que ma vie peut avoir une bonne influence sur la vie de quelqu'un d'autre. Quand ma vie peut faire une différence, moi je dis, ça m'intéresse. Je peux me réveiller le matin avec un sourire, amen. Je peux me coucher le soir, fatigué peut-être, mais avec la joie dans mon cœur de savoir que ma vie a touché la vie de quelqu'un d'autre. Et vous aussi? Ça, c'est la véritable prospérité. Quand nous commençons, peut-être vous voulez dire avec moi, je suis une source de bénédiction. Parce qu'on peut dire, oh Seigneur, je veux être, mais il a dit, vous serez, et nous pouvons commencer à dire, je suis. Je suis une source de bénédiction. Et je vous promets, si vous commencez à le dire, tous les matins quand vous levez, vous le pensez, pendant la journée, vous le dites encore, vous allez commencer à entendre les autres parler de vous, en train de dire, cette personne, c'est une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, ça décide la direction de notre vie. Amen. Ce n'est plus, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour moi? C'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Parce que nous avons souvent été des chrétiens mendiants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as, même en venant dans l'église, on peut venir avec ça à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Qu'est-ce que les frères et sœurs ont pour moi? Je trouve que ce n'est pas l'attitude par laquelle nous devons venir à l'église. Oui? Nous devons venir à l'église, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce qu'il y a une parole que je puisse donner à la personne à côté de moi? Moi, je vais louer le Seigneur. Peut-être ma louange, peut-être ma coupe peut déborder sur les gens autour de moi et les bénir. Peut-être je peux prendre les mains de quelqu'un à prier avec cette personne. Et cette personne va être touchée par Dieu. Seigneur, je veux venir avec quelque chose. Et vous savez, tout ce qui vient avec quelque chose, ouais, vont recevoir davantage. Pas moins. Pas moins. Hallelujah. Jacques a dit, donc c'est important. Vous vous rappelez avoir joué Jacques a dit? Jacques a dit en Jacques 1, 25. Nous avons déjà lu en Jacques qu'il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Mais Jacques dit que si nous mettons en pratique la parole, disons avec moi, Jacques 1, 25 dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, donc vous savez un petit peu d'où je sors ces déclarations que je fais avant quand je prêche, oui. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera, quoi? Heureux dans son activité. Amen. Gloire à Dieu. Semaine dernière, je vous ai donné plusieurs choses, ce qu'il faut faire pour manger le meilleur du pays. Il faut avoir la bonne volonté, il faut être docile, il faut décider de l'obéir, il faut l'écouter, il faut obéir volontairement. Amen. Et nous avons dit que le résultat, ouais, de l'obéissance à sa parole, ou entre termes, si nous mettons la parole en pratique, nous avons dit, nous allons manger les meilleurs produits du pays et nous allons être heureux dans notre activité. Amen. Quelqu'un va me dire, oui, mais John, dans un pays pauvre, Vous n'êtes pas en train de dire que ça peut marcher n'importe où. Ben, nous sommes dans un pays prospère, n'est-ce pas? On peut considérer que ça va marcher ici. Évidemment, ça marche pour les Américains. Même on a appelé ça l'évangile Coca-Cola. Parce qu'on croit que c'est réservé pour eux. Mais est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu de Coca-Cola? Tu penses qu'il a fait des promesses qui ne marchent pas à travers le monde? Moi, je comprends pas les gens qui disent que nous sommes en train de mettre une carotte devant les gens en leur disant qu'ils puissent prospérer. Moi, je crois que c'est la seule opportunité de sortir pour les gens. Je crois que dans n'importe quel pays du monde, si nous prêchons l'évangile, les gens qui n'ont pas de travail, qui puissent trouver du travail. Les gens qui n'ont pas d'appartement, pas de maison, un toit au-dessus de leur tête. Pour certains, la prospérité, c'est d'avoir une bicyclette. Pouvoir se rendre. Un travail pour d'autres, c'est de pouvoir travailler et être payé. Moi, je crois que cet évangile marche dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation, si les gens la mettent en pratique. Amen. Hallelujah. Je pose une question. Donc, pourquoi Dieu veut-il nous bénir? Parce qu'il nous aime. Moi, je dis d'abord parce que nous sommes devenus ses enfants par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Regardez avec moi Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis, mais de la volonté de Dieu, parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Jésus est dans votre cœur? Ça, c'est la nouvelle naissance. Et vous êtes nés de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Hallelujah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes ses enfants et Dieu désire nous bénir tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Est-ce normal? Quel est le père qui ne désire pas bénir ses enfants? Quelle est la mère qui ne veut pas bénir ses enfants? Luc chapitre 11, verset 11. Ça, on se rappelle des gens par certaines choses, n'est-ce pas? Je m'appelle de ma mère par ce verset. Elle adorait ce verset. Elle prie pour beaucoup de gens d'être baptisés du Saint-Esprit et par la langue. Elle utilise toujours ce verset. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fera ça? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Absolument pas, n'est-ce pas? Au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux que le lui demande? Alléluia. J'ai marqué en bas, Matthieu 7, 11 dit qu'il donnera de bonnes choses. On pense qu'il s'intéresse uniquement de nous donner le Saint-Esprit. Non, ça commence avec la nouvelle naissance. Car ça commence avec le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu veut nous donner toutes choses. Amen. Il donne des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Première raison, oui, c'est parce que nous sommes ses enfants. C'est pourquoi il veut nous bénir. Deuxième raison, ça vous va? Oui, c'est parce qu'il veut que nous soyons une source abondante de bénédiction pour les autres. Et comme je dis, c'est ça où la vie chrétienne commence à être vraiment intéressante. Amen. Jean 10, 10. Je pense que c'est le verset que Dieu a mis le plus fortement dans mon cœur quand il nous a envoyés ici en France. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous voyons son œuvre partout. N'est-ce pas? Et certains fixent leur regard sur cela. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et rencontrent Dieu à travers Jésus-Christ, c'est d'avoir la vie, n'est-ce pas? Et c'est formidable, mais il ne s'arrête pas là. Et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Et pour moi, l'abondance, ouais, c'est quand nous commençons à être une source de bénédiction, quand on commence à aider les autres. Amen. Encore deux versets, ça vous va? Oui. 1 Timothée 6, 17 et 18. Donc si Dieu veut qu'on prospère, si Dieu veut qu'on soit riche, si Dieu désire nous amener jusqu'à ce que nous soyons une source de bénédiction, peut-être nous devons commencer à agir comme si nous étions déjà arrivés là. Amen. Moi j'ai raconté ça l'autre jour à un pasteur de jeunes. Il n'avait jamais pris un passeport, il n'avait jamais quitté sa ville. Mais il avait dans son cœur que Dieu voulait qu'il voyage. Donc pour ses jours de repos, il partait à l'aéroport pour regarder ce que faisaient les gens qui voyageaient. Et il trouvait que c'était très intéressant parce que ses parents ne sont jamais allés à l'aéroport. Il n'a jamais quitté la ville, tu vois, sauf en voiture pour visiter les gens des villages autour. Oui, ça se fait donc. Il y a beaucoup de gens comme ça, n'est-ce pas? Mais il allait son jour de repos, oui, pour voir l'aéroport, pour voir comment. Et il regardait comment les gens s'habillaient, comment ils arrivent avec leurs bagages. Et tu peux dire, mais c'est un peu fou. Mais quelquefois, il y a une côté un peu la folie, n'est-ce pas, la foi. Au moins, les autres disent que nous sommes fous. Mais il a pris jusqu'au jour qu'il était invité prêcher dans un autre état et il avait besoin de prendre l'avion. Et là, il savait quoi faire. Parce qu'il avait regardé les autres. Aujourd'hui, il a un ministère international. Il voyage à travers le monde. Donc peut-être sa folie n'était pas si fou que ça. Amen. Il faut que nous commençons à agir comme si nous sommes déjà. Amen. Il dit ici en 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches. C'est la bénédiction du Seigneur nous rend riches, la Bible dit. Recommande aux riches du présent siècle ne pas être orgueilleux. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Et vous avez rencontré des riches qui étaient orgueilleux. Ils ne sont pas tous, mais c'est facile, n'est-ce pas, de croire que nous sommes meilleurs que d'autres. Qui est meilleur? Qui est pire? Selon Dieu, nous sommes tous égaux. Tous ont besoin d'un sauveur. Tous ont péché, oui, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Il dit, ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ça, c'est le problème de notre siècle aujourd'hui. qu'on a élevé la richesse, on a élevé l'argent en particulier à un niveau, l'argent ne peut pas vous guérir quand les médecins ne savent pas quoi faire. L'argent ne peut pas résoudre des problèmes familiaux. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas faire, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas mettre notre confiance dans ces richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Qu'il donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Recommande-leur de faire du bien. Est-ce que vous êtes riche en Jésus-Christ? Je sais pour certains, c'est une nouvelle pensée. Pour d'autres, non, c'est quelque chose d'établi. On vous dit, oui, je suis riche en Jésus-Christ, mais voilà comment nous devons réagir si nous sommes riches. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Votre richesse a un but. Nous avons eu un extrême avec ceux qui ont prêché la prospérité en croyant que vivre dans la prospérité, c'est de vivre dans le luxe. Mais ce n'est pas du tout le but de vivre dans le luxe. Le but, c'est d'aider notre prochain. C'est d'être une bénédiction partout. Pas dire, regarde ce que j'ai, combien je suis grand. Non, ça, c'est pas chrétien du tout. Vous êtes d'accord? Dieu n'a rien contre les choses. Tant que les choses nous ne lient pas, mais nous sommes liés par les choses, c'est grave. Recommande-leur du fait du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Peut-être vous m'avez entendu dire ça. Cette année, Dieu m'a dit qu'on travaille notre générosité. Est-ce que vous êtes en train de travailler votre générosité? Oui? Mais comment est-ce que ça va grandir? Comment est-ce qu'on grandit nos muscles? On les travaille, n'est-ce pas? On exerce le muscle et ça grandit. Ça prend du masse. Amen? Si on dit que la générosité, c'est un muscle, il faut le travailler. Il faut commencer. Et beaucoup disent, mais si j'avais beaucoup, je serais généreux. Non, non, je ne crois pas. Si on n'est pas généreux avec ce qu'on a aujourd'hui, déjà, je ne suis pas sûr qu'on va avoir plus. Amen. Mais ne prétendons pas. C'est une décision de nos cœurs. Je serai généreux. Quand je peux aider, quand je peux bénir, je vais le faire. Et même, je vais dire, Seigneur, donne-moi des occasions pour bénir. Amen. Ça, c'est un changement radical de notre façon de vivre, n'est-ce pas? Changement radical, mais j'ai besoin de ce changement et vous avez besoin de ce changement. Amen? Jacques 4, 3. Dernier verset, je crois. Toujours difficile en tant que prédicateur quand vous dites cela. Après, le Seigneur dit, et dites ça aussi. Ok, donc peut-être le dernier verset. Jacques 4, 3. Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Ça vous est arrivé? Ah oui. Ne prétendons pas. Certains prétendent que toutes leurs prières sont toujours exaucées. Moi, je dis, vraiment? Certains prétendent qu'ils n'ont jamais un problème, jamais. Je dis, quoi? Vous vivez dans quel monde? Ça doit être virtuel. Parce que dans le monde réel, on a des situations, n'est-ce pas? Gloire à Dieu qu'il est toujours avec nous. Amen. Pendant. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas. Peut-être ça vous perturbe, ça me perturbe. Si je vois quelque chose dans la parole et je demande, je ne reçois pas, ça me perturbe. Amen. Pardon? Oh, tu prononces ça différemment chez vous. C'est pas perturbe? Laura dit, ça me dérange. Merci Laura, oui. Ça vous dérange pas? Quand vous demandez quelque chose, vous voyez dans la Bible et ça n'arrive pas? Ça devrait vous déranger. Oui, et il nous dit pourquoi. Il dit, oui, vous demandez et vous recevez parce que vous demandez mal. Donc il doit avoir une façon correcte, une façon mal de demander. Merci pour votre petite leçon là. Je vais apprendre comment dire perturber. C'est plus facile perturber même. Dérange, oui. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il semble que Dieu est concerné pour notre mobile. Est-ce que vous êtes concerné pour le mobile de vos enfants? Quelquefois, leur attitude est plus importante que leur comportement, n'est-ce pas? Oui. Et on a besoin de traiter l'attitude. Intéressant, non? Et peut-être nous en dites, moi, Seigneur, moi. Peut-être nous avons besoin, Seigneur, j'aimerais bénir celui-là et celui-là et celui-là. Amen? Peut-être on a besoin de dire, ah, ok, je désire me bénir pour que je puisse bénir. Donc j'ai maintenant trois choses pour vous. Trois choses à savoir. Un, c'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. Amen. Ça va nous prendre du temps pour être convaincus de cela, si on en a pensé autre chose. Ouais. Deux, nous devons savoir comment recevoir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Amen. Attitude et obéissance. Trois, il faut partager les bénédictions si nous voulons davantage. J'ai déjà dit ceci et ça fait rire les gens. Mais si vos placards sont remplis, je parlerai aux dames, d'accord? Si vos placards sont remplis et vous dites, j'ai une femme, j'ai déjà entendu cela, j'ai rien à mettre, j'ai rien à porter, il y a un problème, n'est-ce pas? Moi, je dis, videz vos placards. Si les choses sont usées, oui, vous pouvez utiliser en chiffon, d'accord? S'ils sont en bon état, mais vous savez que vous ne les porterez plus jamais, vous pouvez les donner. Amen. Il y a des associations, nous avons trouvé ici un magasin en ville, oui, et nous apportons toutes les choses, oui, que nous n'utilisons plus. Pourquoi? Pourquoi garder mes placards remplis des choses dont je sais que je ne vais pas utiliser? Mais vous savez, quand il y a la place dans le placard, peut-être Dieu vous donnera d'autres choses. Non, parce que souvent on dit, mais j'ai rien à semer. Quelqu'un nous a prêté, nous a donné des vidéos. J'ai regardé hier matin une vidéo sur le miracle de l'huile. Vous vous rappelez le miracle de l'huile? La femme, oui, son mari meurt, elle lui laisse avec des dettes, elle a deux enfants, et on vient, le créancier vient pour le prendre, pour voir cette dette remboursée, et elle dit, je n'ai rien. Et il dit, ok, je prends vos fils, oui, et ils vont devenir esclaves. Elle dit, non, 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 donc elle crie au prophète. Il dit, prophète, dis-moi quoi faire. Et vous savez, le prophète pose la même question. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Elle avait dit qu'elle avait rien. Il dit, mais j'ai rien sauf un peu d'huile. Vous avez rien? Vraiment? Ouais, peut-être vous devez payer un billet et venir avec moi en Haïti si vous croyez que vous avez rien. Parce que voir les gens qui sont dans les mêmes tentes depuis 2 ans et demi et ils n'ont rien. Ils sont heureux, ouais, avec un repas. Et certains pays sont dans des états comme ça. Vous les avez vus, certains d'entre vous. D'autres, vous n'avez jamais vu ce que c'est d'avoir rien. Ouais. Ça choque. Je ne sais pas si on se remet après. Ça change la façon qu'on vit. Et il dit, va chercher des conteneurs et vous commencez à verser. Vous connaissez l'histoire. Elle verse et quand il n'y a plus de conteneurs, l'huile s'arrête. Et c'est quoi? Elle ne sait pas le miracle en temps. Elle ne comprend pas. Il dit, maintenant, vous allez vendre cette huile. Et vous allez rembourser le dette. Ça, c'est une parole, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on nous laisse endetter. Oui, on vous propose des crédits. Quand les gens vous proposent les crédits, vous vous demandez, est-ce que je veux payer 2 fois le prix de quelque chose? Moi, je dis, c'est toujours mieux d'utiliser sa foi avant d'acheter qu'après. Oui? Il dit, vous payez votre dette et après, vous pouvez vivre avec ce qui reste. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen? Qu'est-ce que vous avez? Nous avons tous des choses. Nous avons tous d'argent. Amen. Je prêche mieux que vous répondez ce matin. Ou peut-être vous êtes en train d'assimiler, en train de comprendre, n'est-ce pas? Hallelujah. Je vais répéter. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis. C'est la volonté de Dieu que chaque homme, chaque femme sur cette planète soit béni. Oui? Nous devons savoir comment recevoir ces bénédictions dans notre vie. Et il faut, ouais, que nous partagions ces bénédictions si nous voulons davantage. Amen. Hallelujah. Certains d'entre vous passez votre temps en regardant l'herbe qui semble être plus verte de l'autre côté. Que les autres, ils n'ont pas les souffrances que vous avez. Vous savez, il y a des gens autour de vous qui ont beaucoup plus de souffrances que vous. Peut-être votre vie a été difficile. Mais sachez ceci, il y a d'autres qui ont eu des vies encore plus difficiles. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation pour aider des gens. Amen. Peu importe d'où nous sommes venus, c'est où nous allons maintenant. Amen. Je peux vous demander à vous lever? Hallelujah. On va faire une déclaration de Jésus comme Seigneur et Sauveur. On va recevoir le Saint-Seine. Merci Seigneur. On va continuer ce sujet. Je pense que c'est tellement important. Dieu désire vous bénir en tant que bon Père. plus que vous désirez ou que vous avez besoin d'être béni. Donc, on va faire cette déclaration ensemble. J'ai marqué ici. Dis, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés et je me tourne vers Dieu. Et je déclare que je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. Et encore une fois, dit, je suis la prunelle de ses yeux. Et regardez votre voisin et vous le dites, vous êtes la prunelle de ses yeux.